C'est lui. C'est Alix.
Les mondes d'Alix.
Ça alors? Qui sont ces hommes? Et à quoi peuvent bien servir tous ces instruments?
Père a réuni les meilleurs savants de Babylone, d'Alexandrie et d'Athènes. Ils mettent au point une découverte qui doit nous rendre riches, extraordinairement riches.
Oh.
Vous voyez ceci? Démocrite a imaginé que la matière était composée d'atomes liés les uns aux autres. Lorsque l'on parvient à isoler les atomes pour les assembler à nouveau, on peut reconstituer un corps minéral. Mais nous avons également découvert une terrible chose. C'est que les atomes, ainsi dérangés dans leur structure, peuvent provoquer des catastrophes gigantesques qui risqueraient un jour de détruire la Terre entière.
La bombe à Athènes. La première audace de Jacques Martin, le créateur d'Alix, en 1948, était d'installer un héros de BD dans l'Antiquité. À l'époque, au lendemain de la Deuxième Guerre, nul n'y avait pensé. Installer, d'ailleurs, n'est pas le mot. Jacques Martin propulsa en effet son personnage dans l'espace, au-delà du monde romain, jusqu'en Chine. Et mieux encore, il fit pénétrer l'avenir dans l'Antiquité. Ainsi, dans l'album L'Enfant grec, le Protonéion à Athènes, qui était en apparence une fabrique de vases classiques, cachait en réalité un mystère atomique, la bombe, des années 1950, 50 ans avant notre ère. Audacieux, Jacques Martin était aussi astucieux. L'atmosphère catholique belge dans laquelle il travaillait, longtemps aux côtés d'Hergé, ensevelissait dans le silence le désir des hommes pour les femmes comme le désir des femmes pour les hommes. Qu'à cela ne tienne, Alix fut dessiné comme un beau dieu grec. Selon les canons les plus académiques, il fut flanqué d'un compagnon, Enak, aux cheveux longs et à la peau caramel, encore plus déshabillé sous prétexte qu'il était plus jeune. C'est ainsi qu'une série homo-érotique s'inséra tranquillement dans les publications recommandées pour la jeunesse. Plus tard, Jacques Martin Badin soupira qu'il n'était pas responsable des fantasmes de ses lecteurs. Et d'ailleurs, quand les mœurs se firent plus libérales, il introduisit davantage de personnages féminins. L'Alix d'aujourd'hui a 50 ans. Il a les cheveux blancs et s'est enfin rhabillé, mais en sénateur. C'est la dernière audace de la série. Jacques Martin, qui souffrait de cécité dans ses dernières années, avait dû lâcher la bride à son atelier. Et à peine était-il mort en 2010, qu'Alix a reparu en 2012, vieilli d'un coup, les cheveux blancs donc, moins bien découplés, mais toujours mince. Il ne se passe pas heureusement des aventures seulement à Rome. Il avait guère fréquenté Rome auparavant. L'empereur l'envoie souvent en mission, nouvelles échappées d'un personnage infatigable dans le temps et dans l'espace.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Pauline Ducret, bonjour.
Bonjour.
Éric Morin, de l'autre côté de la vitre, notre technicien, dit « Mais c'est une affaire de vieux, Alix, il vous a pas vu ?»
Oui, Alix a peut-être maintenant une image qui vient aussi de ce qu'elle a été très utilisée dans les collèges, par les documentalistes et par les profs de latin, et qui du coup peut-être souffre d'un désamour qu'on ne peut que regretter pour notre antiquité classique et les langues qui vont avec.
Notre antiquité classique, les langues qui vont avec. Alors, vous avez passé un CAPES de lettres anciennes, vous êtes agrégé d'histoire, vous êtes aussi archéologue.
Oui.
Et Jacques Martin frayait souvent avec les archéologues.
Oui, Jacques Martin a travaillé avec les archéologues pour avoir des reconstitutions de plus en plus justes, de plus en plus exactes sur les costumes notamment.
Ça frottait un peu quand même parfois avec les archéologues. Vous êtes une des responsables de l'exposition du musée de la bande dessinée d'Angoulême consacrée à Alix, vous avez apporté le numéro spécial de l'histoire intitulé comme cette émission Les Mondes d'Alix. Je voulais vous poser une question, vous parliez de la présence dans l'enseignement de la bande dessinée. Alors, on dit couramment que l'histoire légitime la bande dessinée, c'est exactement l'inverse maintenant. C'est la bande dessinée qui légitime l'histoire.
Oui, ça va dans les deux sens et je pense que même la bande dessinée fait des historiens. Et
à vous ?
Dans les antiquisants et j'en suis, évidemment, Alix et d'autres bandes dessinées antiques, et même Astérix au fond, a marqué d'abord une découverte des mondes antiques en même temps qu'une découverte du latin. Il y a des profs de latin qui l'utilisent très bien en cours et qui m'ont moi-même touchée et qui m'ont donné envie de continuer.
Non, parce qu'Éric Morin dit mon fils de 20 ans, il n'a jamais eu l'occasion de rencontrer Alix. Vous, la rencontre s'est faite comment?
Je pense qu'elle s'est faite au collège, dans le CDI, puis par une prof de latin qui a marqué, qui fait aussi que je sois aujourd'hui une chercheuse en histoire ancienne. Et elle s'est faite aussi en même temps que des romans historiques et les grands péplums, Spartacus en premier, ou Ben Hur pour sa course de char.
1948, le surgissement d'Alix. Nous sommes encore au temps du triumvirat finissant, Pompée, César, Crassus. Crassus qui a délégué l'armée de Marsala, un de ses généraux, à son flanc nord pour combattre les Parthes. Le général romain prend la ville de Khorsabad, c'est dans la Syrie actuelle, et ses hommes vont se saisir d'un jeune esclave qui se trouve là.
Ton nom ?
Je m'appelle Alix.
Tu es gaulois ?
Oui, seigneur.
Comment es-tu encore en vie ?
Je m'étais réfugié dans les caves du palais. J'étais un esclave du roi.
Tu sais où il cachait ses trésors ?
Oui, seigneur.
Alors conduis-nous et prends garde à mon glaive. Allez, vous autres, en route !
C'est ici, seigneur.
Nervus, vois tout cet or, ces bijoux. Je suis riche, riche!
Général, un messager vous demande.
Qu'est-il?
Général Marsala, la cavalerie des Parthes est en route pour vous surprendre.
Il faut plier bagages avant la nuit. Soldats, emportez tout ce butin et incendiez le palais.
Et le jeune Gaulois, général.
Qu'on le ligote à une colonne, il périra dans le feu.
Non, non, je ne veux pas.
C'est un disque 33 tours des années 60, signé par Jean Morel, qu'on utilisera plus d'une fois dans cette émission. Mais qu'est-ce qu'un Gaulois fait là, en Syrie ?
En fait, Jacques Martin a utilisé une des failles de la connaissance historique. On sait qu'il y avait des mercenaires gaulois dans les armées de Crassus.
C'était de bons cavaliers ?
Entre autres, oui, parce que c'était des très bons cavaliers. Il y avait même des Gaulois qui étaient installés en Galatie et qui ont donc aidé Crassus dans sa campagne près des Parthes. Et donc Jacques Martin, quand il a découvert ça, semble-t-il, en tout cas c'est ce qu'il raconte, a tout de suite vu comment insérer un héros qui parle à un lectorat français, mais qui utilise un imaginaire fantasmé qui est celui de l'Orient.
Oui, mais c'est un esclave. Comment un Gaulois peut-il être esclave s'il est un auxiliaire, si ses parents, par exemple, sont des auxiliaires de l'armée romaine?
Alors la réalité sur ce que fait Alix à ce moment-là, est-ce qu'il a suivi avec sa mère, par exemple, un auxiliaire gaulois et qu'il serait ensuite, au moment de la campagne, il aurait pu être arrêté, enfin être fait prisonnier. Et c'est quand même la première source d'esclavage dans cette période-là, au premier siècle avant Jésus-Christ, c'est la capture de prisonniers. Donc ça peut être tout à fait marché. Est-ce que sinon c'était tout simplement un esclave gaulois ou une famille d'esclaves gaulois qui a été emmenée par des Romains sur place? On peut avoir plusieurs interprétations possibles de ce tout début d'histoire.
La machine à intégrer romaine est capable aussi, bien évidemment, d'amener dans la même région un jeune Égyptien qui s'appelle Enak. Le lecteur va faire en sorte que ce personnage s'incruste dans les albums parce qu'il y a un processus d'identification avec Enak, un peu comme avec Milou dans Tintin.
Jacques Martin, Alix est toujours accompagné de son ami, Enak.
Oui.
La relation entre Alix et Enak a fait couler beaucoup d'encre. Disons tout d'abord que c'est une amitié très riche dans la mesure où c'est un dialogue culturel permanent, puisque Alix est gaulois, donc des pays celtiques plutôt du nord, et Enak est d'une mentalité beaucoup plus orientale et très méditerranéenne.
C'est un égyptien. Je dois dire que le personnage d'Enak, lorsque je l'ai créé, c'est un personnage qui m'a échappé dans le sens où j'avais créé Enak uniquement pour une histoire qui était le Sphinx d'or. Et dans mon esprit, il n'y avait pas d'Enak qui suivait. Il n'y avait pas de rôle dans les albums suivants.
Et ce sont les lecteurs qui
ce sont les lecteurs du journal de Tintin qui, à l'époque, ont manifesté leur mécontentement et même leur fureur, par moments, en assaillant le magasin du journal Tintin à Bruxelles, pour réclamer le retour d'Enak. Et on m'a fait venir à Bruxelles, on m'a dit, vous allez... Le genre, j'utilise le mot qui avait été employé à l'époque, vous allez nous parachuter ce personnage tout de suite. Sans ça, on va avoir des problèmes. Et alors, comme j'étais jeune et docile, j'ai ramené Enak. Et puis, je me suis rendu compte que je ne pourrais plus jamais m'en séparer. C'est le public qui a imposé Enak. C'est pas moi qui ai imposé ce personnage. J'ai tout de même voulu que Alix soit toujours habillé en rouge parce qu'il a des cheveux blonds. Donc, il représente le soleil, dans mon avis. Tandis qu'Enak, habillé avec des cheveux noirs, habillé en bleu, représente la nuit. Alors, si un féminin dans cette affaire, c'est Enak, c'est pas Alix.
Entretien en 88 sur France Culture de Jacques Martin avec Olivier Germain Toba. Enfin, l'un habillé d'une couleur, l'autre habillé de l'autre. Ils sont surtout déshabillés, l'un et l'autre. Alors, est-ce que c'est la pruderie des jeunes femmes d'aujourd'hui? Mais vous contestez le terme homo-érotique que j'utilise dans le chapeau. C'est évident, comme le nez au milieu de la figure.
Alors, c'est une évidence qui est... qui est d'abord liée au contexte, vous l'avez dit dans l'introduction, qui est le journal de Tintin, où en fait présenter des femmes était pratiquement impossible, et donc il fallait que le compagnon d'Alix soit un compagnon et pas une compagne. Et c'est en tout cas une évidence qui a été lue dans les années 60 par les milieux gays, qui en ont fait un couple gay revendiqué. Cela dit, Jacques Martin s'est toujours prudemment a laissé ouvertes toutes les portes possibles, au moins dans les albums qu'il a écrits lui-même, où des femmes tombent amoureuses d'Alix, Alix lui-même semble sensible à certains charmes féminins, Alix et Enak ont parfois des postures tendres, exactement. Cela dit, ces personnages masculins, ces nus même, sont des nus très classiques, très beaux, mais assez peu sensuels.
Ouais. C'est même parfois sadomaso. Mais Jacques Martin dit que la brutalité des tortures sous l'Antiquité était bien connue.
Oui, tout à fait. Notamment, on voit dans Alix et Enak sont très souvent des esclaves. Ils rencontrent très souvent des esclaves. Et alors là, la brutalité de leur traitement, que ce soit des châtiments corporels, la soif, la faim, sont représentées de manière récurrente dans les albums, au point qu'Alix est, de manière anachronique et tout à fait assumée par Jacques Martin, un antique esclavagiste avant l'heure.
Dites-moi, les ambiguïtés de ces albums font qu'Éric Morin a eu raison de ne pas les faire lire à son fils?
Oh, je dirais pas jusque-là, parce que justement, c'est des ambiguïtés qui ont passé la censure du journal Tintin, ce qui était déjà quelque chose. D'ailleurs, il y a une jolie anecdote que raconte Jacques Martin sur la première femme nue qui apparaissent avec ses seins extrêmement bien mis en valeur à la fin des Proies du Volcan, où il raconte que les toutes dernières planches, donc celle-ci, il les a rendues exprès en retard, directement à l'imprimeur, pour éviter la censure. Donc je pense que c'est pas très dangereux d'envoyer, de permettre à des jeunes garçons aujourd'hui de lire ce genre de...
On voit tout ça, parce que vous êtes responsable du chapitre femmes dans l'exposition d'Angoulême, on voit tout ça
sur les panneaux d'Angoulême. On a présenté ces planches dans les panneaux d'Angoulême et on cite régulièrement Jacques Martin qui raconte ce genre d'anecdotes.
Alors maintenant, nous allons vérifier votre compétence. Je vous fais écouter, toujours extraite de l'adaptation de ce disque 33 tours de Jean Morel, une course de chars. Alors de quelle course de chars? De quel album, 32 albums de Jacques Martin, de son vivant, de quelle course de chars s'agit-il?
Que la course commence, la Vénus. Les concurrents sont prêts. Le peuple attend.
L'instant est solennel. Alix monte enfin sur son char. Brutus le reconnaît, il blémit de rage. Et voici que le prêteur jette la serviette blanche, signal du départ. Les chevaux bondissent sous le fouet, la foule hurle. Alix parvient, il est en tête, Brutus vient à sa hauteur. Oh, oh, au lieu de frapper ses chevaux, il cingle le bras d'Alix. Alix a perdu son fouet, il est distancé. Non, non, il revient. Oh, Brutus le fouette au visage cette fois, il recommence. Les chevaux se touchent, les chars sont roue dans roue. Brutus va tenter en décrochant rapidement d'arracher la roue du char d'Alix. Ça y est, il l'a fait! Non! Oh non, c'est incroyable! C'est le contraire qui s'est produit! Le char de Brutus a culbuté! Les chevaux s'écrasent! Brutus est à terre! Et pendant ce temps, Alix vole vers la victoire! Le prêteur se dresse, il jette une serviette rouge! Ça y est! Alix a gagné! Alix a gagné!
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
La course, bien plus tôt, nous parlons des mondes d'Alix, le héros de Jacques Martin. Pauline Ducret, combien d'albums finalement? Parce que vous m'avez induit en erreur tout à l'heure.
Oui.
Vous m'avez dit 32 et après vous corrigez.
C'est... Oui, non, en fait c'est 28 albums qui sont publiés de son vivant et aujourd'hui le 36e est sorti à l'automne.
Bon, mais je ne vais pas vous croire quand vous allez m'identifier à la scène qu'on vient d'entendre.
Oui, alors des courses de chars, il y en a de manière répétée. Parce
combien
que, il y en a au moins 2 très longues et 3 sûrement dans les albums. Il y en a une dans le tout premier album, et je pense que celle-là, c'est plutôt celle du tombeau étrusque, donc 20 ans plus tard, en 1968, qui s'inspire directement de Ben-Hur, mais peut-être pas le Ben-Hur qu'on connaît, celui du film de 1959, mais celui du livre, celui de Lewis Wallace de 1880. Ça reprend vraiment le même déroulé habituel.
Question d'Éric Morin, de quelle marque est le char ?
De quelle marque est le char ? Je n'en ai aucune idée.
Je pense qu'elle est anachronique. Mais justement, les anachronismes dans la documentation si précise de Jacques Martin, est-ce que c'est involontaire ? Est-ce qu'il corrige quand l'anachronisme lui est signifié ? Ou bien est-ce qu'il s'en joue ?
Alors je pense que d'abord, quand il a lancé Alix en 1948, il a inventé le genre de la bande dessinée historique. Et la vraisemblance historique n'est sûrement pas apparue d'emblée comme faisant la qualité de ce genre de production. Et elle est venue petit à petit. Il le dit lui-même qu'il a d'abord travaillé avec des ouvrages du 19e siècle, avec ceux aussi dont il avait accès. Et du coup, à devoir parfois assumer l'anachronisme quand il recrée des cités, ou par exemple sur la ville de Rome, on a peu de représentations, mais on en a quelques-unes. Et où est-ce qu'il allait puiser sa source ? Sur la maquette de Rome de Paul Bigot, qui est au musée de Bruxelles, au musée royal de Bruxelles. Et il savait très bien que c'était une maquette qui était du 4e siècle, donc 400 ans après Alix.
C'est pas la peine de pinailler donc sur la motte sur laquelle est le temple qui ne devrait pas être là. Ça, c'est une lecture de bon élève. On va parler architecture parce que c'est une de vos spécialités, Pauline Ducret, et architecture de Carthage. Il admirait beaucoup Gustave Flaubert, lequel disait qu'il avait mis 5 ans de documentation avant de commencer à écrire son Salammbô.
J'ai été ébloui par le style de Flaubert, par les recherches de Flaubert, et j'ai beaucoup pioché, pas de dessin, mais j'ai beaucoup pioché dans ce livre, je suis informé, et j'ai appris que Flaubert avait passé 5 ans à Carthage, sur le site, pour travaillant comme un fou, et se faisant par après critiquer par tous les archéologues de l'époque, et ce qui me fait plaisir, c'est que maintenant on réalise qu'il avait raison.
Chapitre 3, Salammbô. La lune se levait au ras des flots, et sur la ville encore couverte de ténèbres, des points lumineux, des blancheurs brillaient. Le timon d'un char dans une cour, quelques haillons de toile suspendus, l'ongle d'un mur, un collier d'or à la poitrine d'un dieu. Les boules de verre sur les toits des temples rayonnaient çà et là comme de gros diamants.
Mais et qu'est-ce que c'est ? Quelle curieuse lueur là-bas, regardez!
En effet, qu'est-ce que c'est?
Le malheureux, il a été ébloui. Mais que peut bien être cette lueur?
Là, elle descend au vieux port maintenant.
C'est fantastique!
Cela venait de cette masse imposante là-haut. Cette bâtisse est l'ancien palais des Barkacidès, la famille d'Amilcar, Hannibal et Hasdrubal.
Petit salut pour la lecture de Salammbô à littératureaudio.com. C'est un bon exemple, Carthage, pour qui veut étudier le rapport à l'architecture de Jacques Martin ?
Ah oui, c'est très intéressant parce que c'est la superposition de 3 époques antiques. D'abord, c'est celle de la guerre punique, des guerres puniques, celle du 2e siècle avant Jésus-Christ, celle de que Flaubert a essayé de réécrire, enfin, a mis en scène dans son Salammbô. Ensuite, c'est celle, bien sûr, d'Alix au 1er siècle, puisque Alix arrive à Carthage, où il découvre des ruines et une cité en cours de reconstruction. Or, en réalité, on sait que Carthage est... Il y a une première colonie qui est installée à Carthage par les Gracques en 22 avant Jésus-Christ, donc il y a une présence romaine sur place, mais la ville telle qu'elle est présentée, la vraie ville de Carthage, elle ne renaît en fait de ses cendres plutôt qu'au 2e siècle après Jésus-Christ, à l'époque d'Adrien.
Donc
pas du tout à l'époque d'Alix.
Anachronisme cultivé.
Oui, un anachronisme qui est peut-être aussi nécessaire pour faire naître des images, parce que Carthage, pour le lecteur, c'est la Carthage punique, et ce sont les ruines qu'on voit aujourd'hui qui sont des ruines romaines.
Alors il va très loin dans le monde, plus au sud que l'Algérie, en Afrique. Et puis il a une dilection pour l'Asie, au-delà des Parthes tant respectées par les Romains. Il y a la Chine. Alors y a-t-il vraiment des Romains qui sont arrivés en Chine ?
Partie depuis plusieurs semaines du golfe Persique, une jonque fait route vers la Chine avec Alix et Enak à son bord. Que les dieux soient loués de vous avoir décidé à m'accompagner dans ce long voyage, Alix.
Si tu ne t'étais pas montré aussi persuasif, Enak et moi serions probablement déjà à Rome. Mais qui est donc cet homme qui se tient à l'écart depuis qu'il a embarqué Mardokios ?
C'est le prince Wuchichei, Alix. Un petit cousin de l'empereur de Chine.
Nous ferons route ensemble. Je dois rejoindre l'empereur à Yuxin, sa résidence d'été.
Un Romain en Chine, Pauline Ducret ?
Alors, on n'a pas de certitude sur la présence, sur le fait qu'il y ait eu ou non des Romains en Chine. En tout cas, les relations commerciales entre les deux empires sont absolument avérées.
Les routes de la soie,
qui passent soit par la voie terrestre ou, comme Alix, par la voie maritime. Et puis, il y aurait peut-être eu une ambassade au IIe siècle après Jésus-Christ, à l'époque de Marc Aurèle, qui aurait été envoyée en Chine. On a ça apparemment dans des sources chinoises, mais on a du mal à identifier exactement
Dites-moi, les personnages. Dites-moi, l'empereur de Chine, il n'est pas très gentil. Hein. Il a un côté Viet Cong, d'ailleurs. Enfin, parce que il sait ce que c'est que la guerre d'Indochine, Jacques Martin. Lorsque Alix est soupçonné de complot, dénudé, enfin encore, ligoté, jeté dans une cage, à demi immergé, Enak va se porter à son secours. Et lui-même, Enak, doit être enterré vivant un peu plus tard, tel une bête, avec le prince mort de qui il a brisé le cœur. Là, encore le sadomasochisme. Drôle de représentation de la Chine.
Oui, tout à fait. Mais c'est très intéressant ce que vous dites qu'il y ait du Viet Cong derrière, parce que ce qu'on voit, en fait, c'est que, certes, Jacques Martin représente l'Antiquité, mais il la représente avec la lecture actuelle du monde, et ces BD sont très proches de l'actualité. On a pu dire par exemple de La Griffe Noire, qui est publiée dans les années 60, qu'il y a un lien direct avec la guerre d'Algérie et avec les exactions de la guerre d'Algérie. Donc oui, évidemment, il y a une relecture à l'aune de ce que sont devenues les différentes régions du monde qu'il décrit, ce qu'elles sont devenues à son époque et en quoi elles parlent au lecteur à ce moment-là.
On parle de guerre froide, on parle de guerre d'Indochine, il faut parler de bombes atomiques. Il est donc un atelier de vases attiques qui s'appelle le Protonéion à Athènes, mais...
Je te demande l'autorisation d'aller enquêter au Protonéion. Il s'y passe des choses anormales.
Soit.
Où sommes-nous ?
Dans un ancien souterrain. Approchez. D'ici, nous pouvons voir ce qui se passe dans le Protonéion. Chut, nous sommes à l'intérieur d'une statue. Regardez par ce trou.
Ça alors ? Qui sont ces hommes ?
Et à quoi peuvent bien servir tous ces instruments ?
Père a réuni les meilleurs savants de Babylone, d'Alexandrie et d'Athènes. Ils mettent au point une découverte qui doit nous rendre riches, extraordinairement riches.
Encore une de ces découvertes qui ne finissent que par provoquer des catastrophes.
Nous poursuivons inlassablement nos recherches. Icarion nous a donné tous les moyens dont nous avions besoin pour fabriquer la grande matière.
Et quelle est cette étrange matière ?
Vous voyez ceci. Démocrite a imaginé que la matière était composée d'atomes liés les uns aux autres. Lorsque l'on parvient à isoler les atomes pour les assembler à nouveau, on peut reconstituer un corps minéral. Mais nous avons également découvert une terrible chose. C'est que les atomes, ainsi dérangés dans leur structure, peuvent provoquer des catastrophes gigantesques qui risqueraient un jour de détruire la Terre entière.
Adaptation dessin animé de Jean Cubeau pour France 3 de L'Enfant grec. Pauline Ducret.
Oui, c'est intéressant. Un des ressorts dramatiques d'Alix, c'est et souvent à chercher dans les catastrophes. On sent qu'il y a une... Il y a un jeu avec l'histoire, mais l'histoire doit toujours revenir dans ses pas, et qu'il faut donc toujours que toutes les petites évolutions que Jacques Martin invente reviennent sur leurs pas. Mais il y a aussi un jeu sur ce que j'ai appelé une tentation uchronique dans l'exposition, qui est d'imaginer des découvertes qui sont pas de l'époque. On voit ça dès le début, puisque L'île maudite, qui est le troisième album, a des machines à vapeur, des bateaux sans rameurs, etc. Et donc il joue de manière très intéressante sur une modernité anachronique, mais ils le disent là très bien dans l'extrait, qui a des fondements, enfin en tout cas un départ scientifique en
mais
général
vous
recherché.
D'uchronie, mais c'est ce qui pourrait se passer, ce qui aurait pu se passer. C'est une uchronie qui est quand même aimantée par une fascination de l'apocalypse.
Ah oui, tout à fait. Il y a une fascination de l'apocalypse qu'on trouve chez Alix, mais qu'on trouve aussi chez Lefranc derrière.
Et Lefranc, c'est l'autre héros de Jacques Martin.
Voilà, qui vit dans l'époque moderne. Et il y a une sorte de fascination pour l'ordre. Tout revient toujours dans l'ordre à la fin des albums d'Alix, qui est assez marqué et qui finit. Mais un ordre qui est toujours d'abord le désordre d'une explosion de volcan, d'un tsunami, de la bombe atomique.
Mais j'en demande humblement pardon à Éric Morin, qui va trouver que c'est une référence ancienne. C'est un peu comme dans Blake et Mortimer,
oui,
de ce point de vue.
Mais tout à fait, mais cela dit, Martin est directement l'héritier de Jacobs, voire il s'est inspiré de son dessin au moment de créer son propre style. Et on lui a même demandé, dans le journal de Tintin, de faire ce qui marchait. Et ce qui marchait, c'était de l'Hergé, puis du Jacobs.
Comment ça se passait d'ailleurs entre tous? Alors, une atmosphère de camaraderie, des heurts, vous faites la moue,
oui,
des colères,
quand on lit
des ruptures.
Les... oui, c'est ça, quand on lit... D'abord, Jacques Martin était le petit jeune dans le trio, et il a fallu qu'il s'impose. Hergé a eu des mots assez durs au début sur lui. On voit dans l'exposition des lettres qui lui ont été écrites où il lui dit qu'il va falloir quand même qu'il progresse.
Parce qu'il n'avait pas vu que le corps était beau chez Alix. Hergé disait « Vous faites pas mal les mains ».
Oui, oui, effectivement, il a dû lui dire des choses. Cela dit, Jacques Martin avait une formation d'ingénieur automobile, et il a travaillé notamment dans des usines en Allemagne, des usines de Messerschmitt. Et donc, il faisait d'abord bien les représentations des voitures, des avions, il a eu des rubriques dans le journal de Tintin, et de l'architecture, avant d'être un bon dessinateur de corps.
Il est guetté par la cécité, il finit par ne plus voir, son rythme s'est ralenti, il meurt en 2010, et dès 2012, un mot de Alix Sénateur. Alors je vous laisse dire le nombre d'albums.
Alix Sénateur, je crois qu'il y en a 6,
bon.
Et que le sixième est sorti très récemment.
Et alors
Alix Sénateur, c'est donc une reprise par Valérie Mangin et Thierry Desmarais.
Valérie Mangin, c'est drôle, c'est une élève de l'école des Chartes. On se demande toujours ce que sont les débouchés possibles pour les historiens, vous voyez.
Voilà, on peut devenir scénariste de BD à condition d'être talentueuse comme elle. Et donc, on se retrouve à peu près 50 ans plus tard. Enfin, Alix, on est en 12 avant Jésus-Christ. Alix a lui-même, 50 ans, donc on est un peu plus que ça encore, un peu moins que ça. Et... l'intérêt de la réussite de ce séquel, c'est de vieillir Alix et finalement de le rendre par là même accessible à un plus jeune public. Et je crois que c'est une bonne manière, puisqu'on se demandait de quel album mettre dans la main des enfants. Alix Sénateur, qui est redessiné selon des goûts plus actuels, peut-être une bonne voie d'entrée aujourd'hui dans le monde antique.
Bon, on va essayer de réfléchir à ça avec Éric Morin. C'est donc quand on est vieux qu'on plaît aux jeunes. La réalisation de l'émission Audrey Ripouille, la préparation Frédéric Martin, Franck Olivard, le numéro de l'histoire Les Mondes d'Alix, l'expo avec un fort beau catalogue chez Casterman, au musée de la bande dessinée d'Angoulême, expo de laquelle vous êtes partie prenante. Et tout à l'heure, dans l'émission de Mathieu Vidard, La tête au carré, sera plus question de mots que d'images, les mots du racisme avec Marie Treps et Tard. Ben Jelloun, dans un instant, il va être 14h et vous écoutez France Inter.